France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Isnogoud a 50 ans.
Je veux être calife à la place du calife.
Isnogoud est né en janvier 1962. C'est l'année où un référendum décida de l'élection du président de la République au suffrage universel. J'aurais voulu être président, c'est le titre d'un album récent. Et c'est une scène qu'on jouera plus d'une fois dans les allées du 39e festival de BD d'Angoulême. Ils sont attendus en effet de nombreux politiques. Ils savent qu'en temps de crise, la BD est un produit distrayant, pas trop cher, à quoi il est bon d'être associé. Deux d'entre eux d'ailleurs n'ont même pas besoin de se déplacer pour être présents. Dominique de Villepin est Alex Taillard de Worms dans le second volume de Quai d'Orsay. Quant au président Sarkozy, on ne compte plus les titres où il figure. Le petit Nicolas, qui est à peine plus âgé qu'Isnogoud, bondit de case en case. La BD peut être reconnaissante au monde politique, il lui fournit des modèles, il vient la saluer à Angoulême, de plus fait peu remarquer les parlementaires. Dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, viennent d'accorder aux dessinateurs de BD le même régime fiscal favorable qu'aux écrivains, aux scénaristes et aux compositeurs. Nous sommes décidément tes jours au royaume d'Isnogoud. La lutte contre les niches fiscales n'avance pas beaucoup, mais la lutte pour la reconnaissance fait rage. Un des auteurs de cette reconnaissance nouvelle de la BD, c'est Jean-Christophe Augier.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour, vous tenez chronique depuis des lustres sur le 8e ou 9e art.
9e.
Le dimanche sur France Info et vous participez à de nombreux prix et jurys.
Le prix Isnogoud, attribué à Jean-Marie Messier, l'ancien patron de Vivendi Universal, a été désigné pour avoir tenté de devenir calife à la place du calife, pour s'en être vanté et pour avoir échoué dans son entreprise. Le jury présidé par Jean Tabary, le dessinateur du personnage créé par René Goscinny, comprend André Santini, Roselyne Bachelot, Dominique Bussereau et Colette Besson, l'ancienne championne d'athlétisme.
Bon, c'est un son un peu daté. Je ne suis pas sûr que le prix Isnogoud soit encore régulièrement distribué. Tandis que, actualisons, bien que nous soyons dans une émission d'histoire, tandis que le grand prix de la critique vient d'être décerné par vos soins.
Oui, et nous l'avons décerné, ce grand prix de la critique de l'ACBD, l'Association des critiques de bande dessinée, cette année à Bastien Vivès, qui est un jeune auteur de 28 ans, pour son album Paulina chez Casterman. C'est un livre, une bande dessinée merveilleuse sur la danse et les rapports entre maître et élève.
Dites-moi, Jean-Christophe Augier, votre association ABCD, c'est ça ?
ACBD.
C'est une association qui comporte tous les critiques de BD, est-ce que vous êtes aussi nombreux que, je ne sais pas moi, l'association de la presse présidentielle ?
Alors je ne sais pas combien ils sont dans l'association de la presse présidentielle, mais nous sommes plus de 70 de la presse écrite, radio, télévisée, internet, presse nationale et régionale.
Remontons à 1962, le paysage est radicalement différent de celui que nous connaissons maintenant. Il est beaucoup moins touffu que celui où vous avez à vous tailler un chemin. En 2012, aujourd'hui, il y a peut-être 5000 albums qui paraissent chaque année, quelques dizaines à l'époque.
Absolument, plus de 5000 albums de bande dessinée en 2011, dont 3870 vraies nouveautés. On le sait parce que, justement, la CBD a un secrétaire général, Gilles Ratier, qui est également bibliothécaire, qui, depuis 1999, tient les comptes de toutes les productions. Avant cela, on a peu de chiffres. On sait que dans les années 60, quelques dizaines de volumes paraissaient. Alors ce paysage de la bande dessinée pour la France, c'était un paysage franco-belge, essentiellement. On ne connaissait pas encore le mot manga. On regardait peu du côté des Américains, qui étaient d'ailleurs mal aimés, et de la presse jeune catholique comme communiste. Les Américains étaient peu aimés. Et donc, c'était franco-belge. Et dans cette publication franco-belge, j'ai regardé ce qu'il y avait dans l'année 62. Il y a, par exemple, Gilles Jourdan de Tillieu. Il y a Blake et Mortimer de Jacobs, Gaston Lagaffe de Franquin, Spirou et Fantasio de Franquin et Grec, dont vous voyez. Et dans cette production de quelques dizaines d'albums, pas moins de 6 volumes porte le nom de René Goscinny.
Alors René Goscinny, c'est déjà un peu le pacha, je dis ça parce qu'il aimait naviguer sur le paquebot France, ou le calife de la bande dessinée en 62.
Eh bien écoutez, un Astérix, la Serpe d'Or, et pas un des moindres, 4 albums de Lucky Luke avec Maurice, Astérix c'était avec Uderzo, 4 albums de Lucky Luke avec Maurice, sur la piste des Dalton, à l'ombre des Derrick, les rivaux de Penfield Gulch, Billy the Kid, c'est donc la grande époque, je dirais même, de Lucky Luke, et le petit Nicolas avec Sampé. J'ajoute que Goscinny dirige depuis 1959, donc cela fait 3 ans, 62, le magazine Pilote.
Moi j'aimais bien Oum Papa.
J'aurais pu le citer, je le citerai plus tard, on y reviendra.
Vous avez bien fait de citer le petit Nicolas. Le voici dans une version filmée qui suit de peu la date que nous évoquons aujourd'hui, une version à la télévision en 1964. Essayez de reconnaître l'acteur Jean-Christophe qui joue le rôle du papa du petit Nicolas et qui préfère la télévision à l'observation précise des carnets de notes.
Bonsoir mon chéri.
Comment ça va?
Et toi?
Ça va?
Pas trop fatigué, mon chéri?
Le petit n'est pas là?
Le petit, parlons-en. Il a justement quelque chose à te dire, le petit.
Ah?
Nicolas? Alors, mon vieux Nicolas, on a quelque chose à dire à son petit papa?
Ah ah, le match est commencé.
Introduction Racine. C'est une mêlée qui se joue en ce moment à une vingtaine de mètres des buts de Valois, légèrement sur la droite en regardant les poteaux.
Ben, qu'est-ce que tu fais là?
J'attends papa.
Mais la balle est enterrée dans le paquet, l'arbitre.
Papa.
C'est normal.
J'ai quelque chose à dire.
Ça, c'est mon lapin.
Il prend son élan et je
le dossier a tiré. Le bouillon est tombé sur la tartine. Il a dit que c'était ma faute.
Les forêts dégagent magnifiquement d'un grand coup de pied qui écarte le danger.
Puis on m'a envoyé.
C'est très bien, mon lapin.
Je vous jure qu'on ne se fait pas de cadeaux ni d'un côté ni de l'autre.
Tu lui as dit?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit c'est très bien.
Hein? Il a dit quoi?
Il a dit c'est très bien, mon lapin.
Alors, je vois des oreilles interrogatives dans le public du kiosque du Nouveau Monde au festival de la BD d'Angoulême. Et qui est le papa de Nicolas, là?
Eh bien, on le reconnaît quand il prononce pour la première fois le mot Nicolas. Nicolas, Nicolas, c'est Michael Lonsdal.
Voilà. Alors, le petit Nicolas a beau être envoyé de l'école, il va en colonie de vacances. C'est au cours d'une colonie de vacances du petit Nicolas que naît l'idée. Disnogood.
Oui, en fait, dans l'une de ces histoires, Nicolas est en colonie de vacances et c'est l'heure de la sieste obligatoire en colonie de vacances. Et pour tenir les enfants au calme, le moniteur raconte une histoire. Et dans cette histoire, il est question d'un méchant vizir qui veut prendre la place d'un bon calife. L'histoire n'ira pas plus loin dans l'histoire de Nicolas. Mais la petite graine est là qui va germer dans l'esprit de Goscinny.
Alors, il faut qu'on parle de l'association avec le dessinateur, qui est Jean Tabary.
Oui, alors bon, un peu peut-être parlons des deux. Goscinny, on sait, c'est le pape de la bande dessinée de l'époque. C'est surtout un homme qui est né à Paris, qui est parti en Argentine avec sa famille, où il a passé sa jeunesse, son adolescence, qui a tenté sa chance aux États-Unis avant de revenir en Belgique, en France. Vous parliez tout à l'heure, ça c'est très intéressant, vous savez peut-être pas, mais Goscinny a monté avec Uderzo le premier syndicat des auteurs de bande dessinée, parce qu'à l'époque, c'était l'inverse. Seul comptait les dessinateurs. Et le scénariste n'avait pas le droit de mettre son nom sur la couverture. Aujourd'hui, quel incroyable retournement de situation. Il a fallu qu'Uderzo, dessinateur et co-créateur d'Astérix, fasse la preuve qu'il était plus que le simple illustrateur des histoires de Goscinny. Donc, vous voyez, on est l'actualité
revient. Vous n'allez pas traiter quand même Tabary, le dessinateur, de petit provincial?
Ah, eh bien, peut-être que si, quand même. Alors, non. Il est parisien. Il est parisien. Son père a même été pendant 20 ans violon à Mogador. Ces histoires, il est rentré Tabary, le dessinateur, est rentré en BD en 1956, un peu par hasard chez Vaillant, la presse communiste de l'époque pour jeunes, et où il a présenté plusieurs histoires. Et en 62, il y a fait Richard et Charlie, Valentin le Vagabond, déjà d'ailleurs avec Goscinny, Corinne et Jeannot vont venir, Totoche en 58. Donc, ça, c'est la France campagnarde, et c'est la France, si c'est les villes, c'est la France provinciale. Oui,
oui,
c'est la vieille France, c'est la France presque encore d'avant-guerre.
Totoche, c'est un personnage de Belleville. À quoi s'attache volontiers notre réalisateur Jacques Sigal? Lui connaît Totoche, Mais alors, moi, ces noms-là, ça ne me dit rien, parce que il y avait deux Frances à l'époque. Il faut imaginer que la séparation entre les classes qui demeure aujourd'hui est très forte, mais il y a aussi une autre barrière importante qui a un peu disparu. Il y a les personnages du monde catholique et il y a les personnages de Vaillant, comme
oui,
Totoche.
Oui, oui, effectivement. Et pour... l'édification de la jeunesse, apprendre les valeurs qu'il convient de respecter, on est soit dans la filière de la bonne presse, et quand je dis la bonne presse, c'était le nom de ce groupe éditorial qui est devenu le groupe Bayard, et, ou alors on était du côté de Vaillant qui allait devenir PIF.
Alors en 62, c'est curieux calcul d'opportunité pour Tabary qui vient de la presse communiste, dans la presse catholique, dans un journal qui se crée, le journal Record, la bonne presse, elle visait un public de 0 à 99 ans. Et là, c'était le public des 11-16 ans. C'est exact. Là que naît Isnogoud.
Oui. Et en fait, c'est notre ami Goscinny qui propose une histoire et qui va voir Record.
Alors, il est bien étonné, Tabary, parce qu'on lui avait vaguement parlé d'une affaire de détective.
Ah, oui,
et
oui,
puis,
oui.
Ça va se passer dans un tout autre monde.
C'était il y a bien longtemps, en ces temps bénis de Dieu. La voûte céleste était un immense dôme recouvert de velours bleu, sur lequel étaient cloués les astres et les étoiles. Et la Terre, un immense disque plat, qui trônait dans l'univers. Cette Terre était peuplée dehors de barbares, plus sanguinaires les unes que les autres. Mais heureusement, au cœur était l'Orient. Et au cœur de l'Orient rayonnait un pays de lumière, qui avait été bâti tout entier pour servir une ville. C'était la plus splendide, la plus somptueuse, la plus prodigieuse de toutes les cités de l'univers. C'est pourquoi on l'appelait tout simplement la Magnifique. Et son guide suprême, commandeur des croyants, était l'être le plus fin, le plus charmant, le plus généreux qui n'ait jamais existé. Mais surtout, il était bon. C'est pourquoi on l'appelait tout simplement...
Ah, Isnogoud, le bien-aimé. Voilà comment tous les livres de sorcellerie de mon cher Tebrune devront commencer. Quand je serai débarrassé d'Haroun el-Poussas ou incapable de calife. Quand je serai calife à la place du calife.
C'est à Bagdad que ça se passe. Mais ce Bagdad, c'est un Bagdad de fantasy. C'est à peine un décor.
Oui, effectivement, et... tout repose sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Goscinny appelle Tabary pour lui dire « Je vais vendre une histoire de... » Je crois bien qu'il s'agissait d'une histoire de détective à Record. Bon, alors Tabary commence à réfléchir à son histoire de détective. Et quand Goscinny revient, il dit « Bon, ben, c'est bon, on fait une histoire de calife. » Ah bon, de calife, mais ce n'était pas du tout prévu. Donc, il n'y a aucune documentation. Ça tombe bien, ce n'est pas le problème. Ce Bagdad-là n'est même pas le Bagdad des mille et une nuits que Goscinny lira plus tard, par curiosité et érudition, parce que c'était un homme de grande culture. Et en l'occurrence, il dira s'être ennuyé à la lecture. Alors, Tabary va mettre en scène des minarets et des échoppes et beaucoup de couleurs. C'est tout ce qui compte. C'est un décor.
Grande différence avec Lucky Luke, avec Astérix.
Absolument. Alors, la différence, elle va même au-delà. C'est-à-dire que... Bagdad est un décor pour permettre à Goscinny de s'adonner à ce qu'il préfère, c'est-à-dire jouer avec la langue, jouer sur les mots, jouer sur les expressions, jouer sur les situations.
Mais il y a des situations qui ne sont pas documentées, mais qui sont importantes. Ça raconte une histoire en 44 planches.
Non, c'est beaucoup plus souvent des petites histoires en 10 ou 20 planches qui sont juste... Oh, c'est toujours la même chose. Le grand vizir veut se débarrasser du calife et il n'y arrive pas et ça se retourne contre lui.
Mais la confusion est intéressante parce que le premier titre, c'est « Les aventures du sultan Haroun el-Poussa ». Regardez notre réalisateur qui ressemble à Totoche et à Haroun el-Poussa. En même temps, c'est un personnage important, incontournable. Il va être croqué avec beaucoup de soin.
Alors, il sera croqué avec beaucoup de soin, mais finalement, ce n'est qu'un faire-valoir. Une fois qu'on a dit qu'il était bon, et il est bon, et qu'il était bête, et il est très bête, eh bien, on a tout dit de ce calife Haroun el-Poussa. Idem quand on parle du serviteur du vizir d'Ilat Larat. Une fois qu'on a dit qu'il était très serviable... Et non, presque servile, on a presque tout dit également. Ça veut dire que
ça, dans... C'est le rôle du producteur par rapport à celui du réalisateur. Mais il y a des comparses, non? Vous voyez toute l'équipe technique.
Non, contrairement par exemple à Lucky Luke, où vous avez des seconds rôles très importants. Tout le monde ici devant nous, nous sommes en public à Angoulême, connaît les Dalton. Tout le monde connaît Jolly Jumper. Tout le monde connaît Rent en Plan. Tout le monde même, ou presque, connaît le juge Roy Bean, quand on a lu un peu les aventures de Lucky Luke ou Calamity Jane. Ces personnages sont importants et documenté. Je vous mets presque au défi, à vous qui avez déjà lu Is No Good devant nous, de nous parler de, d'autres personnages. Ce n'est pas si facile que ça, parce que la seule chose qui compte, c'est Is No Good.
Alors voilà, c'est donc ça la force d'Is No Good. On va venir à son succès. Nous sommes, je vous le rappelle, en 62, élection du président au suffrage universel, fin de la guerre d'Algérie, d'autres faits saillants, non ?
Ah bien, Anquetil a gagné le Tour de France. Le 15 de France a gagné le tournoi des 5 nations. À l'époque, c'était les 5 nations.
C'est ce que regardait peut-être le papa du petit Nicolas tout à l'heure.
Oui, alors... Bon,
et puis le paquebot France parade devant les grands ports du monde. Ça, c'est un produit sûr, vous voyez. Made in France, des 30 glorieuses.
Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. Voici donc que ce paquebot, ce splendide bâtiment avec ses 315 mètres de long, avec ses 57 000 tonnes de déplacement, avec sa production de 160 000 tonnes.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Que des produits qui rebondissent. Claude François, il va faire l'objet d'un second film dans 2 mois. Is No Good, c'est notre sujet. Il va faire l'objet d'un nouvel album en pleine campagne électorale. Et puis quant à l'histoire, elle fonctionne sur ressort aujourd'hui grâce à Jean-Christophe Augier, le chroniqueur de BD de France Info. Alors avant de nous parler des récents avatars d'Is No Good, redites-nous ce qui fait le succès d'Is No Good. Le dialogue, le calembour.
Le calembour bon, le jeu de mollet. Oui, parce que c'est l'esprit presque almanach Vermeaux. Il adorait ça, Goscinny. Il adorait ça au point qu'il aurait voulu en mettre dans d'autres bandes dessinées. Mais Maurice Polyculic disait non, ça c'est ton jardin secret, tu le gardes pour toi.
Alors on fait compteur.
Allez, le compteur à gaz. Ouais. Il s'appelle à gaz, forcément.
Mage. Ouais.
Le mage d'Épinal, ouais. Effectivement, forcément, image d'Épinal. Le cantonnier, cantonnier...
Bête pour la vie.
Bête, c'est pour la vie, parce que cantonnier bête, c'est pour la vie.
Parfaitement, oui.
Oui, eh bien, j'ajoute encore le brave Razad, qui est patron de bar. Ben oui, le bar chez Razad, évidemment. Donc voilà, c'est un peu l'esprit du dialogue.
Il y a un côté, avec la formule qui devient proverbiale, je veux être calife à la place du calife, il y a un côté Audiard.
Oui, il y a un côté Audia, il y a un côté, d'ailleurs qu'on aime bien aujourd'hui, un côté dialogue travaillé, mais un peu franchouillard. C'est peut-être, malgré le fait que ça se passe dans Bagdad la Magnifique, ce qu'il y a de plus franchouillard dans le travail de notre ami Goscinny.
Et alors, vous ne voulez pas parler du travail de votre ami Tabari,
si.
Le trait quand même.
Si, le trait, très important le trait, parce qu'au début, Tabari a un trait assez rond, d'ailleurs, qu'on retrouve dans Totoche, dans Corinne et Jeannot. Et Is No Good va devenir Is No Good le jour où Tabari va durcir son trait, va en faire quelque chose de nerveux, de plus énervé même, et où il va grossir le visage d'Is No Good dans les cases qui vont envahir toute la case. C'est donc la preuve, encore une fois, que ce qui compte dans les aventures d'Is No Good, maintenant on va l'appeler comme ça, les aventures d'Is No Good, eh bien, c'est bien ce personnage-là, ce caractère. Ce caractère qui nous rappelait à l'époque Bah, Louis de Funès, sauf que là je fais un anachronisme parce que Louis de Funès n'était pas encore connu quand Goscinny l'a inventé. Je sais que vous trouvez qu'il ressemble à quelqu'un d'autre aujourd'hui un peu plus.
Oui, mais on parlera d'Isnogoud en politique dans un instant.
Bon,
c'est après 74. Vous voyez au premier rang une jeune fille qui prend des notes, alors essayez, à moins qu'elle n'essaye de saisir votre visage dans sa mobilité, essayez d'argumenter ce rapprochement avec Louis de Funès. Il n'est pas absurde parce que plus tard, quand viendra un projet de cinéma, on est toujours du vivant de Goscinny.
Goscinny pensera à de Funès. Son ami Pierre Tchernia, qui était complice en cinéma, avait l'intention d'en faire un film et de ce film de confier à Louis de Funès, évidemment, le rôle d'Isnogoud. Le rapport, il est qu'on sait bien que De Funès a souvent fait les énervés méchants. Eh bien, le Isnogoud est le premier méchant de la bande dessinée. Ça, c'est, je crois, assez important. Avant de ça, il y avait des personnages méchants qui étaient des faire-valoir. Là, c'est le personnage principal.
Pour illustrer, avant que ne survienne Tchernia, le rapport entre le dessinateur et le scénariste, tel que vous l'avez décrit, voici un dialogue 75 entre Goscinny, il a encore 2 ans à vivre, et Tabary.
Ça m'a beaucoup servi parce que, comme je fais d'autres séries où je fais le scénario, Goscinny, qui a beaucoup plus de métier que moi sur ça, il m'a appris à mettre que l'essentiel dans les textes. Et il m'a créé des difficultés que je ne me crée pas, moi. Quand on fait ses propres histoires, sans le vouloir, enfin, instinctivement, on enlève les difficultés. Parce que là, il faut que je les fasse. Dans la prochaine que j'ai à faire, par exemple, il y a le carnaval de Rio à faire. Et ça m'affole terriblement. Si ça avait été moi qui avais fait le scénario, jamais j'aurais mis le carnaval de Rio.
C'est un petit plaisir sadique que le scénariste a en plus. Vous savez, vous tapez carnaval de Rio, ça vous prend pas plus de temps que ça. Et puis alors lui, après. Quand un dessinateur utilise les services d'un scénariste, il y a toujours plus de monde dans ses dessins que quand il fait ses scénarios lui-même. C'est une sorte de règle, ça. Quelquefois, ça le fâche, d'autant plus qu'il y a des histoires qui se passent dans le désert, mais il y a un monde fou.
Un commentaire pour ce petit dialogue. Il faut savoir que Goscinny était un scénariste très, très méticuleux et précis. Quand on regarde ses pages de scénario, il y a tout ce qui se passe dans la case, le décor, les personnages, décrit parfaitement. On le voit de dos, de face, puis à côté, le texte off, très précisément écrit, puis les dialogues. Et il pense tout. Il pense même quand les personnages sont hors de la case. Il imagine tout. Pour le dessinateur.
Alors maintenant, vous brûliez d'aborder ce moment. Isnogoud va entrer en politique. Juste un an avant le dialogue dont on vient d'écouter un extrait, 74, dans le journal du dimanche, ça coïncide, j'imagine, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle, Isnogoud commente l'actualité.
L'ignoble Isnogoud commente l'actualité. C'est le titre de la rubrique dans le journal du dimanche. Et effectivement, de manière récurrente en bande dessinée, hein, réellement. Il viendra là commenter chaque semaine ce qui se passe. On a par exemple, j'ai retrouvé cette image de 1974 de Jacques Chirac allant à Bagdad, on y revient, voir Saddam Hussein pour vendre le procédé de couleur français Sekam. Et il va donc rencontrer Saddam Hussein et évidemment Goscinny imagine que Saddam Hussein, qui n'est pas connu pour être le plus aimable des hommes, est le descendant naturel d'Isnogoud. Et on voit Chirac dire « Mon cher grand vizir, j'admire votre façon de gouverner », et Isnogoud répondre « Oh, c'est simple, quand j'ai des problèmes, je vise la tête, j'en parle ».
On vient d'ailleurs d'arrêter un individu qui avait exporté illégalement hors d'Irak un fragment d'une statue de Saddam Hussein, et c'était le postérieur de Saddam Hussein. Alors, autre souvenir, une séquence, « Si j'étais ministre de l'Industrie ». Alors, Isnogoud est là, devant un public, et il explique que grâce à lui, on va de nouveau produire français. Il s'agit de beaucoup, et Dilat Larat note comme lui que le public est très indifférent, prend à peine des notes.
Et pour cause.
Et oui, Dilat Larat lui dit...
Oui, mais ce sont tous des travailleurs étrangers, donc voilà. Produire français, ça ne l'intéresse pas plus que ça.
Ça a donc duré pas mal d'années, même au-delà de la disparition de Goscinny, et ça a continué dans le journal du dimanche, encore quelques années aussi après la disparition de Goscinny.
Oui,
mais ça s'est arrêté avant la défaite de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, effectivement. Mais il faut dire aussi que c'était très politique. Ce sont des années très politiques, même pour la bande dessinée. On les trouvait partout, ces bandes dessinées-là.
Tabary restait seul devant le micro de Bernard Pivot à Apostrophe.
Surtout en France, les perdants sont sympathiques. S'il gagnait, on ne sait pas ce qu'il ferait parce qu'il n'annonce pas de programme. On ne sait pas ce qu'il ferait s'il arrive au pouvoir. Pourtant, il a des armes fantastiques puisqu'il a les fées, il a les magiciens, il a tout ce qu'il veut pour réussir. Mais il faut croire qu'il n'est pas très intelligent puisqu'il échoue à chaque fois.
Mais est-ce que vos lecteurs n'aimeraient pas qu'un jour le Is No Good arrive à ses fins
et... Ça prouve que les lecteurs ne sont pas tellement gentils, finalement. On me demande, on me dit qu'il faudrait quand même qu'il arrive un jour à être calife, il le mérite.
Sinon...
Alors, la complexité du rapport du héros et du lecteur, ou bien du candidat et de l'électeur, le méchant teigneux, il veut la place, on va peut-être lui donner sa chance, de même à celui qui veut renverser la table. Très beau sujet, monsieur Augier, pour un concours à Sciences Po, par exemple.
Vous êtes taquin. Ouais. Vous êtes taquin parce qu'effectivement, dans ces années-là, la bande dessinée trouve sa place dans la presse. Et par exemple, le Matin de Paris publiait dans les années 70, au moment du giscardisme triomphant, le Baron Noir de Goethe et Pétillon. Je suis troublé parce que c'était mon sujet de Sciences Po, de grand oral.
Ah, on donnait déjà ça à Sciences Po.
C'était la première fois. C'était une expérience. Et donc, quand j'ai tiré l'enveloppe, je me suis retrouvé avec trois strips du Baron Noir et je...
Vous avez été brillant.
Je reconnais que j'étais plus à l'aise que mes professeurs pour parler de bande dessinée.
Et les professeurs considéraient que ça faisait partie de la culture générale ?
Ça vous choque ? Je sais que ça vous choque. Mais oui, ça fait partie de la culture générale. C'est de la culture populaire, mais c'est de la culture générale. Parce que la bande dessinée est devenue adulte il y a déjà un moment et s'autorise à parler de tout et de tout brillamment.
Alors, je vais continuer à vous choquer. Après la disparition de Goscinny, il faut maintenir l'exploitation du filon. Parce que, au fond, Tabary va signer en allant dans la mine qu'on ne peut pas abandonner. Autant d'albums tout seul qu'il en avait signé avec Goscinny.
Oui, on trouve le nom de Goscinny sur à peu près 14 albums avec des compilations. On trouve le nom de Tabary seul sur à peu près 14 albums. En fait, il a signé les aventures d'Is No Good jusqu'à sa mort l'été dernier. Tabary est mort l'été dernier.
Et il est mort, on peut le dire, en province. Je vois des auditeurs de Saintes. Il est mort à côté de Saintes.
Exactement.
À la Séguinière. Oui, il avait d'ailleurs donné le nom de la Séguinière aux éditions qu'il avait fondées. Je vais vous choquer encore parce qu'il trouvait la tutelle de Dargaud insupportable.
Les aventures éditoriales des auteurs mériteraient une émission entière parce que Dargaud avait déjà eu Maille à partir avec Goscinny et Uderzo sur Astérix. Aujourd'hui, d'autres auteurs ont des soucis, mais bon, c'est l'aventure des éditions.
Je veux être calife à la place du calife.
Alors Haroun El-Poussa, le calife n'a pas d'enfant, je crois. Il préfère la nourriture aux femmes, on connaît ça dans notre équipe aussi. Par contre, Goscinny et Tabary ont des enfants. Et alors maintenant, l'exploitation du filon est passée aux descendants.
Ah, je vous laisse cette phrase un peu sévère, exploitation du filon, parce que je pense que l'on peut quand même remercier Anne Goscinny de faire vivre ce qui est le patrimoine de la bande dessinée française à travers ce que faisait René Goscinny. Il est vrai qu'on relance Is No Good aujourd'hui. C'est Nicolas Canteloup qui va signer les scénarios du prochain.
Le scénario du prochain. Grande interview de Nicolas Canteloup dans le Figaro.
Oui, et c'est le fils de Tabary qui va faire le dessin. Effectivement, c'est une affaire de famille.
Oui, alors il explique, j'ai instinctivement pris, quand j'imite Is No Good, la voix de Dominique de Villepin et non pas de celui que vous imaginez. Dites-moi, pour que Is No Good est encore, il est 13h58.
On n'a pas prononcé le nom succès, de Sarkozy.
Il faut un film, 2004, assez calamiteux. Il faut la relance maintenant par Nicolas Canteloup. Alors cette bande dessinée que vous tenez absolument à légitimer haut et fort Jean-Christophe Augier, en fait, elle est tractée par d'autres mondes que celui de la BD.
Mais non, la bande dessinée 5000 albums dans l'année, c'est un paysage qui va bien au-delà de tout cela. Et puis je dois dire aussi que s'il n'y avait pas eu la bande dessinée, vous n'auriez jamais vu un dessin de Plantu montrant à l'antenne. Qu'est-ce que je veux dire ? À la une du Monde, Sarkozy en Is No Good.
Alors à la une, l'actualité dans un instant. L'équipe technique, Adrien Gaza, Benoît Jégot, Olivier Leroux, Sébastien Bouillette et Dominique Allard. Je ne cite pas de nouveau le nom de notre réalisateur. Il est 14h, vous écoutez France Inter.
Sinon, je te fais emballer.